Ok. Je suis en train de préparer pour le cerveau de l'Ancien Testament qui donne une perspective très, une vision large de le travail de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Donc, ce matin, on va parler d'un livre dans les petits prophètes, Jonas, et on va aborder quelques thèmes. Prions. Seigneur, merci pour ce moment dans ta présence. On est là pour écouter. Tu es le professeur, tu es le maître. Nous sommes des étudiants, nous sommes des adorateurs et nous avons besoin maintenant d'écouter ta parole. Aide-nous de reposer en toi et que tes pensées viennent vers nous dans nos pensées profondément. Merci. Amen. Romains chapitre 9, verset 15 pour commencer. Romains 9, 15. Dieu parle au travers de Moïse, l'Ancien Testament, mais c'est citation dans le Nouveau Testament. Dieu a dit, donc car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. On a un problème. On a une façon de penser. Que l'Ancien Testament, Dieu était un Dieu de colère. Et dans le Nouveau Testament, que Dieu, Jésus-Christ, évidemment, est un Dieu d'amour. Et on pense, Sodome et Gomorrah, le déluge, et on voit les jugements. Exil en Babylone par les Babyloniens qui amenaient ceux de Juda et Jérusalem en exil pour 70 ans. Et on pense, waouh, c'est dur d'être un croyant dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Mais je vais essayer de montrer dans une façon correcte, juste, le cœur de Dieu ce matin. Parce qu'il y a un équilibre entre la justice et la miséricorde. Il y a un équilibre entre la justice et l'amour de Dieu. Et Dieu, comme Ibrahim a dit, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Dieu ne change jamais. L'homme change. On est changeable. On est très, quel est le mot, fickle, on est très changeant. On est dans un avis, on est vraiment, fois l'homme, fois on est attiré par cette activité et attiré par quelque chose d'autre. On n'est pas fiable, mais Dieu est 100% fiable. Courte introduction. L'homme était créé dans l'image de Dieu, toujours est dans l'image de Dieu. Nous avons la création. Création, je sais que ce n'est pas très... Création. L'homme a marché dans la présence de Dieu avec aucune séparation. Mais en Genèse chapitre 3, la chute par la désobéissance de l'homme, par la désobéissance de femme, mais aussi de l'homme, les deux sont coupables. Ils étaient coupables. Et nous, maintenant, nous sommes en train d'expérimenter les conséquences de ça. Chute. Aucune connexion avec Dieu. Et maintenant, tout le reste de la Bible, Nouveau Testament, Ancien Testament, est rédemption. Rédemption. C'est Dieu en train de rétablir la relation avec l'homme, avec l'humanité. Et l'homme fait tout ce qu'il veut pour rétablir la relation par sa propre moyen. Il construit le tour de Babel pour toucher et gratter du ciel. Mais ça ne marche pas. La solution vient de lui et on voit ça à la croix. Et le reste est maintenant dans le Nouveau Testament. On ne va pas parler trop de ça ce matin. Mais rédemption, et tous amènent les croyants vers la croix. Tous les prophètes, tous les psaumes, toute l'histoire de la Bible, Ancien Testament, Ruth, Juge, Josué, Chronique, Roi, Samuel, tous amènent vers le point central, la croix. Donc, il faut toujours voir la perspective, le passé et le futur, toujours le regard à la croix. Mort, enterrement, résurrection de Jésus-Christ, la première, l'incarnation, la première visite de Jésus-Christ, Dieu lui-même sur la terre. Et donc maintenant, on va retourner à Jonas. Et on peut apprendre dans cette période que ce prophète, choisi par Dieu, pas choisi par lui-même, choisi par Dieu, lui, dans le royaume du Nord. Ok, peut-être je vais entrer un peu dans le détail. Vous êtes avec moi? C'est pas trop compliqué l'explication? C'est bon? C'est pas bon? C'est bon? Ok, nous avons roi Saul, premier roi d'Israël, deuxième roi David, troisième roi Solomon. Donc on est trois rois. Après ça, il y a une division entre la paix, entre les 10 tribus de la nord, s'appelle Israël ou Samarie, et les 2 du sud s'appelle Juda. Donc, ce qui a passé est que les rois et le peuple du royaume du nord descendent tout de suite dans l'idolâtrie, tout de suite. Et Juda, l'histoire de Juda maintenant est entre les bons rois, les mauvais rois, l'idolâtrie, le retour vers le Seigneur. Mais en bref, Jonas était parti de le royaume du Nord. Et il est un prophète, comme tous les prophètes. Qu'est-ce que les prophètes font? Ils citent ce que Dieu a déjà dit, peut-être dans certaines prévisions d'événements futurs pour avertir et dire stop, arrête, arrête, tourne vers le Seigneur. Et Jonas est envoyé, pas à Israël, pas à Juda, mais à Ninive, la capitale, la ville capitale de l'Empire Assyrien. Et donc l'histoire est bref, c'est comme ça. Je vais résumer les 4 chapitres de Jonas dans une petite courte explication. Ninive était le, qu'est-ce qu'on peut dire, le ce qui peut résumer même dans une façon mieux. La méchanceté personnalisée était Ninive. Ninive était le mal en personne. Une ville qui représente un empire cruel, violent, agressif, qui torturait les gens. Il est un énorme de souffrance, esclavage. On pense que nous sommes dans une époque méchante, mais Ninive, comme Sodome et Gomorrah, dépravé, corrompu, détruit. Et donc Jonas, le prophète, est envoyé par Dieu. Ok, j'ai une mission pour toi, Jonas. Ninive, prêche à Ninive, parce que la destruction approche pour eux. Jonas, il a dit, non, j'en ai marre, je me barre. L'autre direction, il prend les vacances en Espagne, il prend un bateau, un navire pour aller en Espagne. Tarsis. Espagne, c'est bon, mais quand c'est la volonté de Dieu, il faut aller dans la volonté de Dieu géographique. Hein? Donc, il part dans un bateau, il pense, ah, cool, maintenant, je sors de la présence de Dieu. Le Seigneur a dit, ah, tu peux pas, je ne suis pas dupe, tu ne peux pas sortir de ma présence si facilement que ça. Donc, orage, tempête, le bateau est comme ça, et les marins, les gens disent, écoute, au secours, il fait des idoles, il prie des idoles, et rien ne passe. Donc, il dit, Jonas, pourquoi que tu dors? Et lui dit, ah, je dors, oui, j'ai dit, je suis là, et ils ont posé les questions, pourquoi que tu es là? Quel est ton Dieu? Quelle est ton profession? Qu'est-ce que tu fais? Il a dit, voilà, je crois en Dieu, Dieu d'Israël, tu peux me jeter dehors. Je vais rester dans l'abîme, dans la mer, et pas de problème pour vous. Le moment où ils ont fait ça, il était avalé par un grand poisson, mis directement à Ninive. Il arrive à Ninive, il entre dans la ville, il prêche. 40 jours et la destruction vient à Ninive. Un jour marche dans la ville. C'est une ville, si tu fais une balade, c'est 3 jours. C'est comme Paris. C'est énorme, c'était énorme. Il commence à marcher et prêcher. Les gens écoutent. Le roi de Ninive écoute. Repentance tout de suite, comme ça. Tout le monde a repenti. Le Seigneur dit, voilà. Ok, j'entends ses cœurs, pas juste les paroles. Et la destruction est levée. Et maintenant, Jonas dit, je vais voir, je suis prêt à regarder pour la destruction. Donc, il est assis, il est dos de la ville, il est en train d'écouter, de voir qu'est-ce qui va passer. Rien ne passe. Il est en colère contre Dieu. Il cache sur une plante couverte de le vent et le soleil. La plante meurt. Il expose le soleil. Il a dit, Seigneur, tue-moi. J'en ai marre de ma vie. Le Seigneur dit, pourquoi que tu es triste? Pourquoi que tu es en colère? Pas besoin d'être en colère. Ces peuples méchants sont sauvés. Ils repentent comme ça. Et ça, le livre termine avec ça. La dernière parole de le Seigneur. Pourquoi que je ne peux pas avoir compassion sur un peuple? Ceux aussi, dans la ville, qui ne sont pas, qu'on n'est pas entre la main droite et la main gauche. Ça veut dire qu'ils ont peut-être des enfants, peut-être je ne sais pas quoi, mais c'est des gens qui n'ont pas la compétence, pas la connaissance. Ils ont besoin de miséricorde. Donc, toute la ville sauvée. Et maintenant, je vais rentrer tout de suite dans le matéria, je vais prendre dans le contenu de le message avec cette explication. Donc, la première chose, on peut dire, en Jonas chapitre 1, Jonas chapitre 1, verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'au moi. Première chose, on peut dire, Dieu n'est pas dupe. Dieu aime la justice, et quand il voit la méchanceté, et il est un Dieu de justice, il va agir. Il écoute les cris des de prisonniers. Il écoute et il entend les souffrances sur la terre. Dieu va retourner pour régner en justice en Ésaïe 32, verset 1. Et les princes vont régner avec équité aussi. C'est le règne messianique millénium de Dieu, 1000 ans sur la terre. Et finalement, la terre va recevoir la vraie justice avec un peuple juste, avec un Seigneur qui est juste. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. Mais entre ces moments et la deuxième venue de Christ pour régner à Jérusalem avec David, nous avons une énorme période de temps que l'homme, civilisation de l'homme et l'humanité, dans un monde brisé qui souffre, et nous avons des cris en permanence vers le Seigneur. Les hommes qui crient, les femmes qui écoutent, et les souffrances. Dieu a la compassion, il est touché. Il ne va pas laisser une situation de traîner. Quelle est l'application? L'application est ça. On souffre et on dit, ce n'est pas juste Seigneur. Les choses qui passent autour de moi. Et le Seigneur dit, je sais, j'écoute, je sais mieux que toi. C'est moi d'occupe maintenant. Prie pour les gens, mais c'est moi qui va venir bientôt. Le Seigneur va agir, sinon il n'est pas le Seigneur. La justice soit faite. La justice soit faite. Deuxième chose. Jonas, chapitre 1, verset 3. Il a décidé de fuir à Tarsis. On a déjà dit ça. Je vais éviter la présence de Dieu parce que si je quitte la présence de Dieu, je m'occupe avec les choses que je veux faire et il me laisse tranquille. Non, Dieu ne va jamais nous laisser tranquille. Il est le Dieu qui est omniprésent. Ça veut dire qu'il est présent partout, tout le temps. Il n'a aucune limite. Dieu voit tout, mais Dieu nous aime. Il n'est pas un juge méchant qui regarde nos vies comme ça. Ah, il fait quelque chose de mauvais. Ah, il fait non. Il est un Dieu qui nous aime, qui nous attire. Mais la présence de Dieu est toujours là. Je voudrais dire quelque chose. On a dit mercredi soir, Jésus lui-même était présent pour guérir. Et les gens sont autour et les pharisiens en clou. Il a dit, et la présence de Dieu était là pour guérir. Les pharisiens, les ennemis qui finalement arrivaient de crucifier Jésus-Christ. Mais Dieu, lui-même, n'est pas insécure. Sa présence était là. Sa présence est là ce matin. Il est là en nous. Si on est né de nouveau, si Christ est notre roi, notre Seigneur, notre délivreur, sa présence est là, scellée par le Saint-Esprit jusqu'à le jour de rédemption. Il ne va pas nous quitter. Mais comme en plus, il y a une magnification de la présence de Dieu quand nous avons une église ensemble, quand nous avons des croyants qui disent, Seigneur, bouge en nous. On veut voir ta gloire. Sa présence est là. On ne va pas quitter sa présence. Psaume 139, verset 9. Si je prends un avion en fuite et je voyage dans un autre pays, il est là. Si je décide de faire, de nager et arriver dans un bateau jusqu'à la fin du monde, le bout du monde peut-être, il est là. On ne peut pas quitter la présence de Dieu. Quand a quitté la présence de Dieu? En Genèse chapitre 4. Mais nous ne pouvons pas quitter sa présence parce qu'il est là, mais il est autour de nous. Les soirs qu'on discerne qu'on est peut-être seul, on n'est pas seul. On ne va jamais être seul parce que le Seigneur est là. Nous avons le consolateur, le Saint-Esprit, à côté de nous. Nous avons le voix derrière de nous qui marche dans ce chemin, gauche et à droite. Nous avons le Père qui le plan préparé, le Fils qui exécute le plan. On n'est pas seul. Nous avons la Trinité avec nous. On est privilégié. On était seul sans Christ. Mais ça, c'est notre passé. On est avec lui maintenant. Et dans sa présence, il y a une plénitude de joie. Dans sa présence, il y a un repos pour nos âmes. Finalement, on a trouvé notre maison. Et un jour, on va retourner là-bas. la présence de Dieu. On ne peut pas quitter la présence de Dieu. Essaye pas de faire. Essaye pas de, qu'est-ce qu'on dit, brûler la tête. Non, pas brûler. OK. Je vais griller nos pensées. Pas essayer de faire ça. C'est simple. On ne peut pas quitter Dieu. C'est, on ne peut pas faire. Troisième point. Dieu a préparé. Ça, c'est pour moi, c'est rigolo. Quand on voit ce livre, on pense, les critiques qui disent, la Bible, c'était des hommes qui ont écrit la Bible. Qui, dans ses bonnes pensées, va écrire un livre avec les gens qui sont faibles et des faux, les mauvais exemples? Quand Jonas qui dit, je vais quitter le Seigneur et je veux que, Seigneur, que tu traites des hommes à Ninive parce que je sais que tu es un Dieu de justice et je déteste ça. Qui va inclure dans la livre de 66 livres, s'appelle la Bible, qui montre des exemples de les gens qui ne sont pas vraiment des bons exemples. Et un Dieu qui va, en plus de ça, prendre un homme dans un poisson pour retourner à Ninive, on ne peut pas imaginer ces choses. Donc notre réponse à ceux qui peuvent dire critiquer, oui, on peut dire, bien sûr, vous pouvez critiquer, mais il faut lire la Bible et voir la cohérence d'un Dieu qui révèle tous. Adam, Ève, Cain, Seth, Methuselah, le déluge, Jonas, Jérémie qui pleure pour la ville. Personne n'est sauvé. Jonas qui prêche un message court, pas vraiment accepte le Seigneur pour sauver, mais la destruction à venir, il n'a pas donné une réponse. Et tout le monde était sauvé. On ne peut pas calculer ces choses. Donc Dieu a préparé. Dieu a préparé la poire et un poisson. Ça, c'est rigolo. Normalement, c'est nous qui préparons le poisson, n'est-ce pas? On prend le poisson dans une assiette. On peut-être cuisine le poisson et dit, voilà, le poisson est préparé. Mais le Seigneur a préparé le poisson. En fait, il a préparé Jonas pour le poisson. C'est voir comment Dieu a un sens d'humour. Il a préparé Jonas pour le poisson et le poisson pour Jonas. Préparation. Il a préparé une tempête pour le navire afin que les gens commencent à paniquer et tourner vers Dieu. Et Jonas était mis dehors. Il a préparé une plante pour Jonas d'être couverte, un abri pour lui devant la ville quand il était dehors. Il a préparé le cœur des gens pour le moment que Jonas va parler. Il a protégé Jonas aussi. Il a amené toutes ses préparations. Nous avons Dieu qui prépare les meilleures choses pour nous. Jean chapitre 14, il prépare un demeure pour nous dans la maison de notre Père. Ça, c'est magnifique. Betty a maintenant un appartement, mais le Seigneur a quelque chose de beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et pour nous tous, beaucoup mieux pour nous tous, une maison de demeure. Wow, préparation, Dieu fait les préparations. Il est artisanal, il ne fait pas les choses olé olé, je pense l'expression. Non, il fabrique les choses avec amour, avec le temps pour chacun de nous. Il dit, entre, accepte les choses que je prépare. Préparation uniquement pour chacun, ce n'est pas une taille pour tous, c'est pour chacun dans son goût, selon ton goût, son goût. Préparation. Prochain point. Ça va? C'est bon? Super. Préparation. Maintenant nous avons cette histoire dingue, Jonas. Et dans une tempête sur le bateau, les hommes ont dit, écoute, Jonas, tu es qui? Quelle profession? Ce n'est pas le temps exactement de faire une tonne question, de dire, OK, 10 questions pour toi, Jonas. Quelle est ton couleur préférée? Est-ce que tu as un animal que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes de manger? des questions pendant une tempête. Les gens sont en train de dire, au secours, on va mourir dans cette tempête dans le Méditerranée. C'est rigolo de penser, ils ont passé le temps. Ok, Jonas, tu es en train de dormir. Qui peut dormir dans un bateau pendant une tempête? Il pose des questions. Et la chose que je voudrais dire, après ils ont jeté, ils sont tous sauvés. Parce qu'ils avaient la crainte pour le Seigneur et fait un autel, un sacrifice pour le Seigneur. Donc Jonas a parlé du Seigneur et c'est eux qui ont accepté le Seigneur. C'est possible pour nous de sauter de la volonté de Dieu et dans son, qu'est-ce qu'on dit? Dans son souveraineté, il décide de sauver les gens dans la ville. On a décidé d'aller, qui n'est pas la bonne ville, pas dans la volonté de Dieu. Mais malgré ça, il va nous utiliser dans sa présence pour les gens pour être sauvés. Donc, nos erreurs peuvent être utilisées pour le bien, la gloire de Dieu. Et on me dit, mais c'était pénible, en effet, c'était tellement mal, on a passé 3 jours en Angleterre, il a pleuré, pluie, et rien n'a passé. Oui, mais tu as parlé avec quelqu'un, cette personne a été sauvée, ce n'était pas la volonté de Dieu pour vous d'être là-bas, mais malgré ça, quelque chose a passé. Deuxième chose, 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Toujours soyons prêts pour donner une réponse à ceux qui demandent l'espoir en nous. Pourquoi que vous êtes souriant? Pourquoi que vous avez un repos dans les situations? Pourquoi que vous comportez un peu différent? Pourquoi que vous jouez pas? Pourquoi que vous avez un certain encouragement, une lumière dans votre vie? C'est parce que Seigneur Jésus-Christ habite en moi et j'ai un avenir et je sais et je crois que ça va être le meilleur. On a un message, on n'est pas le message dans nos bouches, on a le message là. On vit le message, le prophète dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, je pense, il a mangé un papier, un rouleau. Et le rouleau représente la parole et le message que le Seigneur veut transmettre. Il a mangé. Et après, il a parlé. Nous avons déjà mangé le rouleau. Et maintenant, la parole sort de nous. Donc, voilà, soyons prêts pour le moment que le Seigneur va amener quelqu'un envers nous pour donner une réponse pour présenter Christ. Donc, ils sont sauvés. Ça, c'est extraordinaire. Et comme je dis, le prochain point, le message était simple. 40 jours et la destruction à Ninive. Pas plus que ça. Quelle est l'application? L'application est ça. On parle avec quelqu'un et on pense, mince, j'ouvre ma bouche et je mets ma chaussure dans ma bouche. On dit en anglais, you open your mouth and you put your foot in it. Ça veut dire tous les mots sont confus. Je n'ai pas arrivé d'exprimer ce que je voudrais dire. Au secours, Seigneur, j'ai fait une confusion. Cette personne ne va jamais comprendre. Je voulais te parler de toi. Le Seigneur va dire, écoute, tais-toi, tu as parlé, je peux utiliser tout ce qui est nécessaire afin que cette personne va comprendre les choses essentielles. Si le Seigneur peut utiliser un âne pour parler à Balaam, est-ce qu'il peut nous utiliser aussi? Je pense oui. On est mieux qu'un âne, ça c'est certain, mais des fois, les choses qui sortent de nos bouches, mais je voudrais parler de toi, Seigneur. Ne quitte pas, ouvre ta bouche, laisse-moi te remplir avec mes paroles, c'est moi qui vais parler. Donc, ce n'est pas centré sur nous si on parle avec les gens. Ce n'est pas nous qui doit faire ça, c'est lui. En nous, et c'est nous qui disons, Seigneur, aide-moi de parler. Donc, on peut avoir cette confiance que c'est lui qui nous conduit. Comme je dis avec Pasteur José, je parlais avec lui, Pasteur José de Lausanne, l'autre jour, on était hautement honnêtement, on est des pasteurs, on est des églises, on marche avec le Seigneur pour des années. On n'est rien en contrôle, on ne peut pas contrôler nos vies. Le Seigneur contrôle nos vies, on marche avec lui et les choses sont bien organisées. Dernière chose, je vais terminer avec ça. Des œuvres de la Ninevite, quand ils sont invoqués, en fait, ils ont fait des œuvres qui expriment le fait qu'ils ont repentance. Ce n'est pas des œuvres, c'est le cœur. Dieu voit le cœur. 1 Samuel chapitre 16, l'homme regarde les choses externes, mais Dieu voit le cœur. Il voit nos cœurs maintenant. Il connaît nos cœurs, la profondeur de nous. Donc, l'expression de notre foi est exprimée par nos œuvres. Ibrahim a parlé sur le fait qu'il faut voir les œuvres qui manifestent, qu'est-ce qu'on peut dire, le salut en fait. Le salut est manifesté et exprimé par nos œuvres. On peut voir, ah, il a fait quelque chose. Ça représente ce qui est en moi. Ce que je crois va être manifesté. C'est simplement ça. Marchons par la foi et les œuvres vont être produites. Ce n'est pas pour nous de produire des œuvres pour plaire le Seigneur. C'est à cause de notre position et d'être accepté par lui pour manifester les fruits. Donc, Dieu voit ce qui est passé avec la repentance. Il a dit, ça c'est fait. Dieu n'est pas un dupe. Si on fait des œuvres de repentance sans pas un renouvellement de cœur, Dieu va dire, ça c'est pas la repentance. J'accepte pas ça. Ça veut dire, tous viennent du cœur. Tous viennent de notre cœur. Et le nouveau cœur, d'Ézéchiel 36, verset 26, Dieu a donné un nouveau cœur et un esprit. Et là, il regarde, pas les œuvres externes. Donc voilà, repentance par les Ninevites. Voir le cœur de Dieu. Il peut détruire la ville comme ça. Mais il est décidé de donner la miséricorde. Ok, repentance, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait dans notre vie? Pourquoi que nous sommes ici? Qu'est-ce qu'il va faire dans nos vies et combien de gens vont être sauvés grâce à ça? Ça, c'est notre Dieu. Un Dieu de miséricorde et de justice. Mais il y a un équilibre entre les deux. Et si nous sommes comme Jonas, Dieu apparemment peut toujours utiliser Jonas. Des échecs et tout. Mais le Seigneur veut nous utiliser pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse.